Chapitre 30. Ce furent de belles noces, les noces de Marie. Dès le matin, le soleil, sans qui rien n'est beau, s'était mis de la fête. Il pleuvait de petits rayons doux, brisés, tamisés par un ciel maillé de gris. La joie discrète du temps influait sur toute chose. Les maisons du fief Sauvin avaient un air de bonne humeur, parées de cette lumière. La cloche carillonnait si clair que toutes les mauges devaient l'entendre. Le bourg entier était aux portes. Et quand, 10 heures sonnantes, Marie sortit de l'église au bras de Louis Fauvêpre et parut sur la place, quand le violonneux, s'échappant du cabaret, vint prendre la tête du cortège pour le conduire à la métairie, tout le monde admira la robe de popeline noire de la mariée, son châle de soie blanche à grosses côtes, le flot de rubans qui descendait de la ceinture jusqu'à terre, et la coiffe de dentelle fine, et la couronne qu'on eût dite cueillie aux orangers du château. Les jolis mariés, Louis Fauvêpre radieux, Marie, intimidée de tant de regards qui la suivaient et de son bonheur qu'elle ne pouvait cacher. Le violonneux lui-même en était fier. Quel coup d'archer ! Comme il faisait courir sur les cordes ses maigres doigts de tailleur bossu. Les jeunes gens sur son passage esquissaient un pas de danse. Les vieux levaient leurs cannes et marchaient un peu tout seuls par braverie. 200 personnes au moins formaient le cortège. Tous les parents étaient là et tous les amis, sauf Mélie Reinette. Ils dévalèrent lentement la pente du bourg, quittèrent la grande route et prirent le chemin de la Genivière. Presque tous l'avaient suivi déjà, il y avait un an à peine. C'était la même saison, les mêmes pommiers étaient fleuris, le vent soufflait ainsi dans les branches. Il menait le deuil de Jacques. Qui s'en souvint? Les arbres sans doute, car ils donnèrent à cette joie qui passait ce qu'ils avaient donné à la douleur jadis, la même pluie de fleurs blanches. Et toujours le violon sonnait même son, même refrain, enlevant comme une fanfare de chasse. À 100 pas de la métairie, quand les gars embusqués derrière les talus pour tuer la mariée déchargèrent, au milieu des cris, pistolets, canardières et tromblons, il dominait la fusillade de sa voix aiguë. « Tradéri, tradéri, la la, tradéri la !» Cet oiseau n'avait peur de rien. Sa chanson était très ancienne. Elle avait fait danser les métayers d'avant la Révolution, les soldats peut-être dans les genêts pendant la Grande Guerre. Les saules de lèvres la connaissaient bien. Aussi s'en donnèrent-ils à cœur joie de la répéter lorsque les mariés entrèrent dans la cour de la Genivière où se dressait le mets entouré de fagots en bas et de bouteilles en haut, quand la mariée se mit à table, quand les invités vers le milieu du dîner se levèrent pour la danse des présents, chacun apportant son écho, un coupon de toile de cholet, des chandeliers de verre, des piles d'assiettes, ou, comme la mère Mitard la rentière magnifique, un bâton fendu garni de pièces d'argent. 3 heures durant, on dîna sous le hangar ouvert que prolongeait une tente de toile louée avec les bancs, les tables et tout le reste à un entrepreneur de Beaupréau. Puis on dansa dans l'air, la bourrée, la gavotte, même une sorte de quadrille rapportée du régiment par des amis de Louis Fauvêpre, tout cela conduit sur le même air où peu s'en faut. Deux Bignoux avaient rejoint le violon. Ce fut un vacarme jusqu'à la nuit, une grande démenée bruyante, à l'air libre, sous l'œil des vieux, groupés autour du tertre. Et le soir venu, on se remit à table. Le premier entrain était passé. Quelques fils de métayers, de beaux gars bruns, forts comme leurs bœufs, plaisantaient encore et parlaient de recommencer la danse après souper. Mais la lassitude des longues fêtes pesait sur presque tous les convives. Les filles, le visage tiré, devenaient graves et muettes et répondaient mal aux frais de leurs galants. La pensée du retour, avec des conducteurs moins sûrs de la route, préoccupait déjà les marraines. Elles regardaient à la dérobée leurs maris, leurs fils, leurs frères. Et, les voyant plus rouges, ou plus pâle que de coutume, elle n'accueillait que d'un sourire contraint les grosses facéties et les chansons obligées des repas de noces. Car elle était finie la coutume du vieux temps. Les femmes n'apportaient plus leurs gobelets profonds, ni les hommes la petite tasse d'argent plate qu'ils pendaient à leur boutonnière, usage tempérant et discret. Quelques anciens le continuaient seuls. Les autres buvaient à plein verre le vin des coteaux de la Loire et de la Sèvre, et les têtes s'échauffaient au grand désespoir des marraines de plus en plus retenues et inquiètes. Rien n'est lugubre comme une fête en de certains états d'âme. Pierre Noëlé, depuis le matin, luttait contre une tristesse noire qui montait en lui, noyant toute joie, toute force, l'espérance réapparue, l'oubli reposant du passé, tous les sommets. La gaieté bruyante de ces vaillants et de ces simples lui était odieuse. Leurs éclats de rire lui faisaient mal. Il aurait voulu s'enfuir. Du coin du hangar où il s'était assis, près de la porte, il assistait comme un étranger à ces noces de sa sœur. La vue même de Marie et de Louis Fauvêpre, tranquillement heureux, et se parlant bas à l'autre bout de la table, l'irritait et le poussait dehors. Vers la fin du souper, Antoinette et une autre jeune fille se levèrent et, se donnant la main, allèrent se placer en face de la mariée. Le bruit s'apaisa un peu. Elles se regardèrent l'une l'autre, intimidées pour bien partir en même temps, et de leur voix sans art qui traînait les finales, commencèrent à chanter la chanson qu'avait chantée leur grand-mère à plus d'un siècle de là. Le rossignol des bois, le rossignol sauvage, le rossignol d'amour qui chante nuit et jour. Il dit dans son beau chant, dans son joli langage, « Fillette, mariez-vous, le mariage est doux. » À ce moment, la femme de Louis Fauvêpre, émue comme le voulait aussi la tradition, cacha sa tête dans son petit mouchoir de batiste. Tous les convives se dressèrent et montèrent sur les bancs pour voir pleurer la mariée. Et, dans le tumulte qui s'ensuivit, Pierre gagna la porte du hangar. Il se trouva tout à coup dans la nuit bleue. Il s'éloigna un peu jusqu'à l'extrémité de l'air. Comme tout était calme dans la vallée, comme elle dormait sous la lune. À 30 pas du hangar, c'est à peine si l'on se fût douté qu'une fête s'achevait là, tant ce misérable bourdonnement de la joie humaine se perdait dans le grand silence. Les buissons penchaient leurs feuilles lourdes de rosée. Une senteur âpre de marée montait des pieds de lèvres. Que d'étoiles il y avait là-haut! Les trois du baudrier d'Orion luisaient entre toutes. Leurs yeux, autrefois pleins de rêves, étaient pleins d'une pitié infinie. Pierre ne pouvait se lasser de les regarder. Il se souvint de sa promesse et se mit à marcher très lentement dans le sentier qui menait chez Mélie. Le long du talus piétiné par les bêtes, son ombre l'accompagnait. La genévière s'enfonçait derrière le rideau épaissi des arbres et le petit violon, faiblement, recommençait à grincer. « Tradéri, tradéri, là !»« Pierre Noëlé, le chemin est dangereux pour toi, tu le sais bien ?» Tu connais l'endroit avant d'arriver chez Mélie Rainette, d'où l'on découvre la lande hue, les pelouses, jusqu'au massif de fleurs d'une teinte grise, ce soir par la lune au bord du sable brillant. Tel que tu es, triste, tu ne passeras pas là sans que tes yeux cherchent au-delà de la brèche. Que feras-tu si, dans l'avenue dont la courbe fuit parmi les prés, tu les apercevais, elle et lui, revenus ce soir d'Italie et prenant possession de leur domaine dans une de ces lentes promenades que font les bonheurs nouveaux parmi les choses anciennes. Et ce n'est pas un rêve. Les traces de la voiture qui les a amenés sont encore fraîches sur l'allée. Vois, ces deux ombres, si rapprochées qu'elles se confondent par moments, ces Jules de Pontual, c'est Madeleine. Ils viennent. Pierre franchit la haie et se jeta dans un bouquet de châtaigniers que l'avenue coupait à 50 mètres de là. Qu'allait-il faire? Le savait-il lui-même? Elle s'était montrée et il accourait. Il voulait la revoir, même au bras d'un autre. Dût-il en souffrir, dût-il en mourir, la revoir encore? Il ne songeait plus à vous, mais l'Irénette qui l'attendiez. Il était debout, le long d'une gerbe de baliveaux partie d'un même tronc, et, caché par eux, la tête avancée au milieu de leurs feuilles, il regardait à sa gauche. Autour de lui, l'ombre était épaisse. Mais, de ce côté, la baie ogivale que formaient les branches, taillées en berceau, s'ouvrait sur un coin du parc illuminé de lumière douce et dormante. Par là, les deux jeunes gens s'approchèrent à petits pas, et le murmure alterné de leurs voix parvint bientôt à Pierre. « Ce chant de biniou et de violon, disait Pontual, me donne envie de pousser jusqu'à la genévière. Venez-vous les voir danser, ce sera drôle. » Madeleine s'arrêta au bord de la tache d'ombre que le taillis projetait sur l'allée. Elle leva la tête vers son mari, avec une petite moue pleine de reproches et de câlineries. La lueur cendrée qui l'enveloppait ajoutait à la beauté sévère de la jeune femme je ne sais quelle grâce indécise et fuyante. « Ce serait drôle peut-être, dit-elle, mais c'est si bon d'être ici. » « Comme vous avez raison, répondit-il. » Et il entraîna, riant de sa grosse voix contente. « Dites-moi, ajouta-t-il un peu plus loin, qu'est donc devenu Pierre Noëlé ? Peu de choses, je le crains. Il n'a pas reparu à la maison depuis décembre. Mon père lui a écrit 2 fois, pas de réponse. C'est incroyable. Mon père a fait mieux encore. Il a pris la peine d'aller au Don Juan. Là, on lui a dit que M. Pierre Noëlé ne venait plus régulièrement au journal et que, quand il y venait, c'était dans un état... Vraiment ? Un garçon pour lequel nous avions eu toutes les bontés jusqu'à le recevoir dans l'intimité. Vous comprenez que mon père n'a pas insisté. Pauvre Noëlé, cela me fait grand pitié. Finir ainsi ? Sans doute, mais c'était fatal. Pourquoi donc ? Il a toujours été intelligent, il avait de l'esprit. Elle sourit légèrement. « Eh, sans doute, mon ami, mais pas plus que beaucoup d'autres. Et avec cela, une ambition folle, démesurée, qui croyait conquérir le monde de haute lutte, comme il arrive à de très rares talents. Encore y mettent-ils le temps. Et pour un qui perce, il y en a 100 qui échouent misérablement. Il en est une preuve. » « Vous dites peut-être plus vrai que vous ne pensez, » reprit Pontual assez gravement. Une ambition démesurée, cela pourrait bien être. Il y a un petit incident qui m'a beaucoup frappé, je l'avoue, et que je ne puis m'empêcher de rapprocher en ce moment de cette chute si rapide qui ressemble pas mal à un désespoir. Quand j'ai annoncé à Noëlé notre mariage, vous vous souvenez, à cette soirée du 28, le dernier jour où nous l'avons vu ? Oui ? Il a pâli, tremblé, changé de physionomie. Au premier instant, j'ai attribué son émotion à la surprise que lui causait la nouvelle. Mais, ma foi, je commence à croire qu'il y avait autre chose. Il passait devant l'endroit du taillis où Pierre était caché. Madeleine, un peu étonnée, regarda son mari. « Que voulez-vous dire ? » demanda-t-elle. « Mon Dieu, ma chère, vous êtes charmante, je ne vous l'apprends pas. » Et peut-être que ce malheureux garçon... Ah, par exemple, reprit-elle avec un peu d'humeur, vous n'y pensez pas, mon cher. Je le crois très ambitieux, c'est vrai, mais pas au point d'oublier les distances. En somme, ce Pierre Noëlé n'a jamais été et ne sera jamais qu'un paysan. Ils continuèrent leur promenade et causèrent d'autre chose. Au bout du massif, comme ils rentraient dans la lumière calme du pré, ils entendirent un bruit de feuilles remuer derrière eux. Madeleine, effrayée, se serra contre son mari. Pontual se détourna négligemment et attendit, le regard fixé sur l'ombre du fourré. Il reconnut que le bruit s'éloignait. « N'ayez pas peur, » dit-il en haussant les épaules, « c'est une bête qui se sauve. » L'épaisseur du taillis les empêcha d'apercevoir Pierre Noëlé qui fuyait désespéré. « Il n'a jamais été, il ne sera jamais qu'un paysan. C'est elle qui avait dit cela, elle qui riait de lui. L'amour qui avait poussé ce fils de métayer loin de la terre, la cause de tant d'efforts et de tant de souffrances, elle ne l'avait pas vu, pas même cru possible. Ce n'était plus seulement sa jeunesse inutile et perdue. Il se sentait dédaigné, méprisé par celle qu'il avait aimée, condamné à n'être jamais qu'un paysan pour elle et pour le monde. Le seul mot de pitié qu'il avait eu était venu de Jules de Pontual. Il courait comme un insensé, tout droit, à travers les prés. Il fuyait, poursuivi par la vision de leur bonheur à eux et par cette condamnation dédaigneuse de toutes ses ambitions passées. Malheureusement, dans cette course folle, croyant sans doute revenir au point où il avait aisément franchi le talus, il se trompa et aborda la haie un peu plus loin, en face du jardin de Mélie Reynette. En cet endroit, le sol du pré était renflé et le sentier le coupait à pic à plus de 2 mètres de profondeur. De jour, malgré le délire qui l'emportait, Pierre Noëlé eut aperçu le ravin béant sous ses pas. Mais, aveuglé par les larmes, trompé par l'ombre des souches énormes qui bordaient le chemin, il ne vit rien. La terre lui manqua tout à coup, et, entraîné par l'élan, il tomba dans le vide. Un cri traversa la nuit. Jules et Madeleine, loin déjà, s'arrêtèrent, écoutèrent un instant du côté d'où venait cette voix, et, n'entendant plus rien, s'enfoncèrent de nouveau dans le parc. Mais, tout près, dans le petit courtil, quelqu'un veillait, attendant la visite promise. Au cri poussé par Pierre, Mélie Reynette accourut. Elle ouvrit la barrière, descendit les marches du jardin. Là, devant elle, Pierre était étendu, les pieds dans l'ombre, le haut du corps éclairé, la face contre terre. Il ne bougeait pas. Mélie l'appela. « Pierre » dit-elle, « Pierre Noëlé !» Le grand silence du sentier lui répondit seul. Épouvantée, elle s'approcha, s'agenouilla sur les cailloux, près de son ami, se pencha vers lui. « Pierre !» dit-elle encore. Et comme il demeurait immobile, elle écarta les 2 bras du jeune homme que la chute avait projetés en avant. Puis, doucement, de ses 2 mains, elle retourna à moitié cette tête chérie. Hélas, elle retira ses mains toutes rouges. Le front fendu, enfoncé par les pierres, baigné dans une mare de sang. Pierre avait les yeux fermés et une pâleur de mort. Mélie Reynette voulut appeler. Elle était seule. Comment l'emporter ou le traîner jusqu'à la maison? Elle n'en aurait pas la force. Et puis cette blessure, cette tache qui s'étendait, rougissant une à une les pierres blanches. Il fallait du secours. Peut-être l'entendrait-on dans le village. Mais sa voix ne sortit pas. Elle se sentait défaillir. Un pas d'homme qui s'approchait la fit revenir à elle. C'était le métayer de la Genivière que la brusque sortie de son fils avait inquiété et qui s'était mise à sa recherche. « Venez ! » cria-t-elle. « Il est tombé en sautant dans le chemin. Il est blessé. Venez vite !»« C'est lui qui appelait tout à l'heure, Mélie. » « Oui, j'étais ici près, je l'ai entendu et tout de suite j'ai couru. Il n'a pas encore bougé et voyez, il perd son sang, maître Noëlé, il va peut-être. » « Pauvre gars, » dit le métayer en arrivant près de son fils, « moi qui le croyais sauvé dans les Mauges. » Et il ajouta, « aide-moi à le sortir d'ici, Mélie, car je me fais vieux. » Il souleva Pierre dans ses bras et, aidé de Mélie, le transporta dans l'enclos des Reynettes. Ils l'étendirent sur la pente moussue qui bordait le jardin tout autour. Le père s'accroupit alors et, sur sa poitrine, posa la tête de son enfant. La lune donnait sur ce petit talus. Oh, maintenant, en pleine lumière, comme c'était plus affreux encore, comme le sang coulait. Il ruisselait sur la veste de fête du métayer, encore parée au revers d'une fleur détachée du bouquet de Marie. Mélie avait couru chercher de l'eau et lavé la blessure, longue, profonde, par où la vie s'échappait. Le métayer, habitué aux rudes entailles que font les tranches et les serpes dans la chair des travailleurs, s'était d'abord moins effrayé que Mélie. Cependant, voyant que Pierre ne faisait aucun mouvement et que la respiration s'affaiblissait, il fut pris d'angoisse. Il regarda cette fille, tremblante et en larmes, qu'il avait chassée de chez lui et qu'il retrouvait là, inopinément, dans un si grand malheur. Ah, dit-il, il n'en reviendra peut-être pas. En ce moment même, Pierre ouvrit les yeux et, lentement, avec effort, dit « Mon père, êtes-vous là ?» Son regard était fixe et éteint. Il ne voyait déjà plus. « Oui, mon fils, dit le métayer, je suis là, je te tiens. Sens-tu mon bras là derrière ton épaule ? Es-tu bien blessé, mon petit ?»« Où est Jacques ?» reprit Pierre. Jacques avait demandé aussi « Où est mon frère, l'abbé ?» Le métayer comprit qu'il délirait et, ne voulant pas le heurter, répondit « Il est très loin. »« C'est bien cela, très loin, très loin. Je lui ai fait du mal, et à vous aussi. Pardonnez. Il faut pardonner aussi à Mélie. Elle ne m'a pas entraîné, non. Elle est bonne, Mélie. Vous savez, celle qui donne des rameaux. Celui-ci pour vous, pour votre mère, pour Antoinette. » Il s'arrêta, saisi d'un tremblement convulsif. La mort se révélait prochaine, et le malheureux père avait trop vu mourir pour en douter. « Cours, dit-il, Mélie, cours vite, ramène le curé, notre gars va passer !» Elle jeta sur l'herbe son linge taché de sang et partit en toute hâte. Mais elle n'était pas rendue au bout du jardin que Pierre remua de nouveau les lèvres. « Je n'entends plus, dit Julien, parle encore. Si tu peux, répète-moi, mon petit !» Et plus près de son oreille, il souleva la tête ensanglantée de son enfant. « Il n'aura pas le temps d'arriver, » balbutia Pierre. « Donnez-moi votre chapelet. » Le vieux métayer qui sanglotait fouilla dans sa poche et remit le rosaire dans la main du blessé. Par un dernier effort, Pierre leva le bras, chercha ses lèvres, y posa la petite croix noire et mourut dans ce baiser. Une acclamation confuse s'élevait du côté de la genivière et la nuit s'éclairait au-dessus de la métairie d'une flamme rouge dont la fumée montait en tourbillon vers les étoiles. C'était le mai qui brûlait. C'étaient les derniers cris de joie saluant les noces de Marie. La fête s'achevait là-bas, tandis que le métayer, tout seul au fond du jardin des Rainettes, laissait tomber la tête de son fils mort sur le talus de la haie. Le lendemain matin, dans cette genivière où le deuil venait de rentrer si brusquement, Mélie Rainette, aux premières blancheurs de l'aube, se leva d'auprès du lit où le corps de Pierre Noëlé était couché. Depuis les longues heures qu'elle était là, venue d'elle-même, et par la permission du malheur, le métayer, agenouillé près d'elle, n'avait même pas eu l'air de s'apercevoir de sa présence. Plongé dans une stupeur morne, il semblait ne rien entendre et ne rien voir. Cependant, comme elle allait sortir de la chambre, il l'appela. « Reste, ma fille !» dit-il d'un ton si attentif et si bon qu'elle ne se souvint pas qu'il lui eût jamais parlé ainsi. Et comme elle hésitait, ne sachant ce qu'il voulait dire, il répéta. « Reste, tu l'aimais autant que nous, ma pauvre fille. » reste ici, en mémoire de lui. J'ai perdu mes deux fils. » Et, regardant Louis Fauvêpre debout dans un coin de la chambre, « J'en retrouve un, tu remplaceras l'autre. »